Rayuela, capítulo 7. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca.
La première chose que je peux vous dire.
Y entonces jugamos al cíclope.
Philippe Malone.
La première chose que je peux vous dire est la préciosité du temps. Celui-là précisément offert dans un écrin lors d'une résidence et dont on conserve la clé jalousement pour qu'il ne s'évapore pas, pour le maintenir à soi, un temps précieux qu'il sera d'autant plus facile à offrir qu'il ne se cabre pas, qu'il ne file ni se défile à la moindre injonction, au plus petit courant d'air, un temps fidèle.
Bonjour, bienvenue à tous. Cette première émission, la nouvelle émission proposée par la Marelle, la première chose que je peux vous dire, c'est le titre de cette émission. La première chose que je peux vous dire, c'est une revue sur papier et sur les ondes. Un écrivain est accueilli en résidence à la Marelle, à la Friche La Belle de Mai. Et cet écrivain se prête au jeu de l'autoportrait ludique, sous forme de questionnaire. On va, durant une heure, échanger avec lui sur différentes pratiques, mais aussi sa manière d'habiter le lieu ici, pour une période de travail, d'écriture ou de travail parfois d'enquête ou de récolte de matériaux d'écriture. Un texte inédit, un questionnaire décalé, une conversation sur ce projet d'écriture, le projet d'écriture en cours, mais aussi les travaux passés. Une carte blanche sonore, des invités surprises, parfois. C'est une manière de les découvrir quand ils arrivent ici, que nous vous proposons. Premier invité, le dramaturge et photographe Philippe Malone. Bonjour Philippe.
Bonjour Pascal.
Bienvenue, on a écouté la première chose que tu avais à nous dire en arrivant ici à Marseille en résidence. Et avec ce questionnaire, d'emblée, évidemment, on a affaire à des écrivains, donc ils ne respectent pas toujours toutes les règles, même la plupart du temps, ils ne les respectent pas. Et tu nous as immédiatement proposé une deuxième chose à nous dire, et j'ai envie d'écouter ça de suite.
La deuxième chose que je peux vous dire est l'éloquence du lieu. Celui-là précisément qui s'offre à vous, vaste, forcément vaste, pour qui la réclusion a saveur de liberté, clair, forcément clair, pour qui la perspective se jauge en pages noircies et défilés d'ombre, un lieu immédiatement conquis, une résidence à soi.
Une résidence à soi.
À soi.
Alors, quand on te pose une question comme ça, Philippe, ça vient d'emblée ou tu dis, bon, quand même, il va falloir que j'écrive quelque chose d'intelligent parce que ça va être quelque chose qui va apparaître de suite. C'est le titre de la revue, complété donc par tes propres propos. Est-ce que c'est quelque chose qui vient spontanément, d'arriver à formuler quelque chose qui est justement une première chose à dire aux futures personnes que tu peux rencontrer en résidence, aux lecteurs, aux auditeurs?
Alors la première chose que j'aimerais dire, c'est que oui, forcément, on cherche à écrire quelque chose d'intelligent. Et immédiatement après, on dit, mon Dieu, pourvu que ce soit pas pontifiant, parce que le problème des écrits, c'est que souvent, ils restent. Ils sont moins volatiles que la parole, donc c'est un exercice assez difficile, parce que ça figure en bonne place après de la revue. Donc moi je me suis réfugié derrière l'hommage, en fait, comme souvent, c'est-à-dire voilà, je rends hommage au lieu et aux personnes qui m'accueillent, parce que sans elles et sans eux, je pense pas que je pourrais écrire. C'est un refuge à la fois facile, mais qui m'importe à chaque fois de souligner.
Oui, il faut des conditions, il faut se sentir... Dans un lieu ou dans un espace qui te permet de travailler.
Oui, tout à fait. Alors après, les conditions sont mises en œuvre. Ici, par exemple, à la Marelle, tout est mis en œuvre pour qu'on puisse travailler. Voilà. Et après, c'est à soi d'apporter tout le matériel pour que ce puisse être possible. C'est-à-dire que les conditions, on les fabrique aussi sur place. Mais a priori, quand on vient avec un petit peu de bonne volonté, on y arrive.
D'accord. Alors, dans cette revue, il y a un texte inédit qu'on va entendre tout à l'heure, peut-être complété d'un autre extrait de lecture d'un autre ouvrage que tu as déjà écrit et fait publier aux éditions Quartet, qui est Crack ou Crash, selon
selon les accents.
Voilà, selon les accents. mais tu vas lire un extrait du texte en cours tout à l'heure qu'on va entendre. Mais il y a aussi une série de questions, dont une question qui concerne le son ou la musique. On t'a demandé de choisir un extrait sonore que tu pourrais nous présenter. Et évidemment, là aussi, tu nous en as présenté plusieurs. Mais j'ai envie d'écouter ce premier, sans forcément le commenter, mais juste parce que tu m'as expliqué que c'est ce que tu écoutais souvent au réveil. C'était Dropkick Murphys, je ne sais pas si on prononce comme ça, Philippe, For Boston, pour Boston. Bah, t'écoutes ça au réveil?
Oui, alors, pas tous les matins, bien sûr.
En forme après, dans la journée.
J'ai besoin un petit peu d'adrénaline, en fait, le matin. Voilà, bon, par contre, je conseille à personne de venir avec cette musique-là, me surprendre très tôt le matin, alors que je dors encore.
C'est toi qui dois décider quand est-ce que c'est ça.
C'est quand même moi qui dois décider. Non, mais j'ai besoin d'un petit peu d'adrénaline, oui. D'adrénaline souvent le matin. Donc voilà, c'est pour ça.
Alors, cette énergie qu'on entend dans ce morceau en live, il faut dire que c'était pour la fête de la Saint-Patrick, donc peut-être qu'il y avait une ambiance dans la salle particulière. Mais... malgré tout, je trouve que quand on lit tes textes, il y a quelque chose de très énergique justement dans tes textes. C'est vrai qu'on peut voir un peu l'écrivain comme quelqu'un d'un peu posé, voire apathique dans une période d'écriture. Évidemment, il y a l'écriture elle-même qui demande peut-être du recueillement et du soin et de l'attention mot à mot. Ce que tu fais justement exactement ce travail-là de très méticuleux sur le texte, mais en même temps il y a cette énergie, cette adrénaline qu'on sent dans les textes.
Oui, en fait il y a quand même il y a de la colère. Oui. Très très souvent il y a de la colère. Et tout le travail de l'écriture consiste justement à essayer de la transformer pour la rendre audible et la rendre publique à travers le médium littéraire, en fait. Mais il y a toujours, je pense, un fond de colère, voire même parfois de rage dans tous les textes qui ressurgissent fatalement. Voilà. On a pu parler un petit peu de cette écriture aussi qui vient de la tête ou qui vient du ventre. Moi, j'essaye vraiment de contenir l'écriture, vraiment dans le ventre, en fait. Ouais. Et d'où cette adrénaline parfois pour relancer ça aussi, d'où... mais bon, il n'y a pas que ce type de musique, ça c'est de la musique pour réveiller évidemment, mais il y a toujours, toujours cette colère. Mmh. Ouais, et je pense que s'il n'y avait plus cette colère, ça perdrait quand même un petit peu, ça peut aller vers autre chose bien sûr, mais j'essaye de faire en sorte que ça vienne toujours du ventre en tout cas.
Oui. Oui, oui. Alors, on va suivre cette petite série de questions. Il y en a une dizaine, un petit peu moins. Mais d'abord, te présenter quand même, dire que tu es écrivain, essentiellement pour le théâtre. Alors ça, on en parlera aussi, parce que finalement, cette distinction, elle est plus du fait de tes éditeurs que de toi-même. En tout cas, ce sont des textes... Qui sont faits pour être lus, qui sont faits pour être incarnés, et photographe aussi. Tu as un travail de photographe en parallèle, ou même parfois ça se croise. Tu as écrit une quinzaine de textes, dont Morituri, Blast, Crash ou Crack, dont on a parlé tout à l'heure, Septembre, qui sont lus, joués, mis en voix, mis en scène, mis en onde, qui sont traduits aussi. Alors, parfois je me dis, sacré travail de traduction, parce que je ne sais pas ce que tu vas nous faire lire, ce que tu vas lire de Crash, mais il y a un effet de télescopage des mots qui est vraiment pas évident à lire ou à jouer, mais peut-être encore moins à traduire. Et voilà, tu travailles aussi avec des musiciens, on va le voir, et tu es publié chez plusieurs éditeurs, donc pour cette quinzaine de textes. Le dernier, c'est Bien loti aux éditions Espace 34 2014, il n'y a rien eu depuis. Les textes en revue. Alors, voilà, c'est une petite présentation. J'ai parlé de cette écriture de théâtre ou du théâtre ou pour le théâtre. Il se trouve que c'est le lieu où on t'a mis, où tu t'es mis un peu aussi quand même. On ne peut pas non plus tout à fait mentir.
Mais j'ai choisi les lieux où on me met.
Voilà, tu as choisi de rester dans certains lieux où on t'a mis peut-être. Mais justement... peut-être, voilà, parler de cette forme particulière, c'est-à-dire que le théâtre en soi, c'est pas une forme, c'est un lieu, un espace scénique, mais c'est aussi un lieu d'écriture qui peut être le réceptacle de quantité de formes différentes.
Oui, exactement, c'était une très belle expression, c'est un lieu, voilà, c'est-à-dire c'est écrire à l'intérieur d'un lieu et créer, et une fois qu'on est dans ce lieu-là, ne plus se poser la question d'une forme par destination, mais voilà. Essayer de profiter de toutes les potentialités de ce lieu-là, tout ce qu'elle peut offrir, pour écrire. Donc, y a un travail de fond et de forme qui se fait en amont, mais qui ne réfléchit pas forcément à la destination, ou en tout cas à sa destination après éditoriale. C'est-à-dire, comme bon nombre d'écrivains, je pense, que ce soit en roman, en théâtre ou en poésie, les influences sont multiples, les filiations sont très grandes. Après, se fabrique un matériau dont on ne sait pas forcément quelle sera la destination ensuite. Roman, poésie, poème dramatique, drame, récit, etc. Surtout qu'aujourd'hui, les bonnes hybridations sont multiples et on voit même des sciences sociales, aujourd'hui des personnes des sciences sociales, des historiens, des anthropologues, qui travaillent aussi la notion de fiction à l'intérieur même de leurs propres écrits. Donc ça devient de plus en plus poreux et en donnant de très belles choses d'ailleurs.
Oui. Bon ben voilà, c'est pas mal, hein, comme c'est clair. Ce lieu circonscrit en quelques mots, je trouve que ça donne une bonne idée de ce qu'est l'écriture contemporaine aussi. Alors, le questionnaire, donc tu as déjà répondu à la première question, on a entendu un petit morceau musical, on en aura un autre. On demande à chaque auteur une photo ou un dessin. Là, en l'occurrence, tu as choisi une de tes propres photos.
Qu'on va pouvoir montrer, là,
qu'on va pouvoir montrer, là. Voilà, tout le monde, donc c'est quand même très éloquent. Donc passons à la question suivante. Non, mais... comment est-ce que tu Comment est-ce que tu travailles? Moi, j'ai vu une série de photos qui sont des photos de nature, de forêt, d'enchevêtrement de sous-bois ou d'herbes, de hautes herbes qui sont des photos qui pourraient être très traditionnelles, mais qui sont complètement prises dans un mouvement, qui est un mouvement sur la photo elle-même, qui transforme l'image. Comme si elle était photoshopée, ce qu'elle n'est pas. Je ne sais pas quelle technique tu utilises, mais il y a quelque chose de très beau qui rend la photo à la fois compréhensible pour ce qu'elle représente et en même temps assez abstraite. Mais ça, c'est qu'une série de ton travail, mais peut-être, puisque cette photo est en couverture de la revue, commenter ces photos-là de sous-bois, d'enchevêtrement, un peu déformées par... Par le photographe.
Ces photos ont une double particularité. La première est d'être un accident et la deuxième d'être prise à 300 km/h. Donc, c'est des photos.
Y compris dans la forêt, dans les sous-bois.
Oui, si, souvent. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des photos prises soit en TGV.
Oui.
Voilà, avec un protocole de prise de vue bien particulier qui donne un effet à la fois de... C'est-à-dire, souvent, je ne vois pas ce que je prends en photo, parce que ça va trop vite.
Oui.
Et c'est juste un travail comme sur la persistance rétinienne. C'est-à-dire que voilà, je prends en photo, selon une méthode bien précise, qui fige à la fois des éléments de la photo et font tourner ou virevolter tout le reste comme un décor autour du sujet principal. Voilà.
De manière aléatoire.
À la fois aléatoire et complètement construite, parce que j'ai mis plusieurs mois, voire une année, à construire le protocole pour bien me caler, pour appréhender la vitesse. C'est-à-dire que, en fait, c'est un travail sur le mouvement, où moi-même je suis en mouvement quand je prends les photos, et pour essayer d'attraper des choses, voilà, des espèces de persistance rétinienne et une réflexion en même temps sur la notion de, à la fois de vitesse et du paysage qui se constitue du coup en décor. Lorsqu'on voyage. Et que reste-t-il du voyage, en fait? Et des choses que l'on n'a pas forcément vues parce que ça va trop vite. Donc j'essaye de percevoir des choses qu'on ne voit pas. Et que moi-même, je découvre après sur ordinateur et sans Photoshop, effectivement. C'est-à-dire que le travail se fait à la prise de vue et sans Photoshop derrière. Sauf à rattraper un petit peu la saleté des vitres du TGV.
Oui. Qui ne sont pas toujours propres, on le sait bien. Est-ce que tu vois, toi, un lien avec le travail de l'écrivain, avec le travail d'écriture? Ou est-ce que c'est vraiment deux mondes différents qui, de temps en temps, s'interpénètrent, mais qui sont au fond des travaux de recherche et d'écriture très, très séparés?
Alors, d'abord, je pense que j'ai beaucoup moins travaillé la photographie que l'écriture, même si depuis quelques années, je suis amené à le faire un peu plus. Ça a toujours été étanche. Aussi. Donc je parle, c'est vrai que comme écrivain, je parle peu de la photographie. Et en revanche, ce qu'il ressort de mon travail de photographe, j'ai fait des études de photographie, j'exerce ce métier depuis plus de 20 ans, c'est que je pense que j'ai une approche relativement visuelle du monde. C'est-à-dire que, et ça se sent dans mes textes, donc il y a vraiment... Par contre, une filiation ou une diffusion véritablement de la photographie dans les textes, en ce sens que les descriptions sont souvent extrêmement visuelles.
Ouais.
Voilà, il y a une approche descriptive, visuelle du monde.
On va poursuivre ce petit questionnaire ludique. Enfin, ludique, nous, on considère qu'il est ludique, peut-être pas les auteurs quand ils doivent plancher dessus. Avec cette interrogation, est-ce qu'il y a un auteur fétiche ou culte ou référence ou est-ce qu'il y a une vénération pour un auteur? Et si oui, pourquoi?
Alors, j'essaye par principe, en échouant souvent, de ne pas admirer. Mais... Donc il y a eu des auteurs, en fait il y a des auteurs qui jalonnent un parcours, et un parcours de travail. Donc il y a du coup beaucoup d'auteurs, il y en a qui ont été importants, il y en a qui ont été très importants en théâtre, des gens comme Bond, comme Barker, comme Heiner Müller, comme Shakespeare aussi, comme Thomas Bernhard. Donc tout ça, ces gens-là font partie d'une certaine manière d'un panthéon qui ont apporté énormément de choses. Après ça, il y a bien évidemment Beckett, Joyce, Faulkner pour la littérature. Aujourd'hui, maintenant, mon travail, justement, s'hybridant de plus en plus, ce qu'on disait tout à l'heure, vers un travail de plus en plus poétique, on va dire, ou vers du récit, ou vers du poème dramatique. Il y a une grosse influence, depuis quelques années, d'une part sur un texte des poètes arabes.
Oui.
Darwish, Barghouti, pour Septembre, par exemple, voilà, et la poésie palestinienne. Et aujourd'hui, depuis quelques années, la poésie américaine contemporaine et les objectivistes américains, qui n'est pas forcément d'ailleurs quelque chose que j'aime, qui rencontre une sensibilité, mais quelque chose qui m'intéresse énormément pour tout le travail de forme et tout l'éclatement des formes qu'ils ont pu avoir. C'est-à-dire que ça donne des idées. Voilà.
D'accord. C'est pas un courant forcément très connu ici. Est-ce que tu as des noms à citer?
Il y a Williams, Carlos Williams, il y a Olson, il y a qui d'autre? Oui, j'en ai plein, mais je les ai pas sous la main.
Oui. Voilà. C'est pas une question piège non plus.
Ezra Pound, même s'il a mal tourné. Tous ces gens-là qui en fait sont partis de la métrique anglaise ont essayé de l'éclater en apportant énormément d'éléments de langage populaire à l'intérieur de leurs textes, faisant de longs récits aussi dramatiques en éclatant les formes, en mettant même des manuels de construction de bateaux à l'intérieur, des notes de frais, ainsi de suite. Et on travaillait tout ce matériau-là, un matériau beaucoup plus simple parfois, pour en faire de la littérature et pour en faire de la poésie. Voilà. Et lié souvent un travail sur la langue de scansion aussi.
Oui,
sur la rythmique.
Oui. Voilà. Ce qu'on sent bien dans tes textes aussi, cet aspect de scansion, de répétition. On va voir d'ailleurs avec un deuxième extrait musical où on t'a demandé, là tu as répondu clairement à la question, un son, une musique qui peut être inspirante ou qui peut correspondre à... Alors il y a la salle du matin qui nous réveille et puis il y en a une autre qu'on va écouter juste maintenant. Essayer de ne pas trop rentrer dans le compte à rebours hypnotique que suggère cette musique. Mais ça, c'est pour se mettre en état d'écriture. Qui est-ce qu'on entend?
Là, c'est Franck Vigroux, qui est un...
Avec qui tu as travaillé?
Voilà, un formidable musicien avec qui j'ai eu la chance de travailler, avec qui je continue parfois encore à travailler sur des lectures. Et voilà, qui fait de la musique électroacoustique, des spectacles, et qui travaille le son. Voilà. Alors, je ne dis pas que j'écoute ça toujours. Je répondais dans le questionnaire en parlant de musique répétitive aussi.
Oui.
À tous les sens du terme, c'est-à-dire des musiques que j'écoute plein de fois aussi deviennent répétitives. mais voilà, je voulais aussi rendre hommage à Franck qui fait un travail absolument extraordinaire. Et c'est vrai que sa musique, ses bandes sont importantes et sont très importantes.
Alors, on va continuer encore avec une question avant d'entendre une lecture un petit peu longue, puisque c'est aussi le motif de cette émission, de cette revue, c'est d'entendre un texte par l'auteur, lu par l'auteur, un texte inédit en général. Et là, je termine en quelque sorte la série de questions auxquelles tu as répondu. Après, je passerai, je te préviens, comme ça, tu t'y attends, aux questions auxquelles tu n'as pas répondu. Parce que j'aimerais quand même avoir des petites réponses sur les 4 ou 5 autres questions qu'on a dans ce petit questionnaire.
J'arrive avec des réponses toutes faites. De toute façon,
tu as déjà
tout préparé sur différents sujets d'actualité ou non, donc il n'y a pas de souci.
Un jour, je le coincerai, mais pas aujourd'hui, visiblement. Alors, celle à laquelle tu as répondu, c'est un toc de langage. Donc, un mot, une phrase, une expression qui t'agace ou qui t'interpelle, soit chez toi, parce que tu l'as remarqué et que tu dis, bon, il faut quand même que j'en fasse quelque chose, soit chez les autres.
Ben, chez moi, oui. Tant qu'à faire. Oui. L'enfer, c'est les autres, mais bon, on peut aller chercher moins loin aussi. Alors, moi, c'est écoute. Voilà, je me suis rendu compte que je reprenais souvent ce terme-là.
Ce terme.
Voilà. Écoute. Voilà, avant de parler. Il y a du coup, bien évidemment. Nous sommes nombreux à nous appeler du coup. Mais il y a écoute. Avant du coup, il y a écoute. Alors voilà, ce que j'écrivais, c'est écoute, comme s'il ne suffisait pas de parler, comme s'il fallait, en plus du souffle ponctué, écoute, comme si on avait peur de perdre une soudaine attention, injonction faite à l'autre, écoute, à moins qu'elle ne s'adresse qu'à moi. Écoute, je m'ordonne, ne perds pas le fil de ce que tu dis. Écoute, pèse et sous-pèse avant de parler. Écoute comme on prend de l'élan avant de commencer une phrase. Voilà. En fait, d'abord, on a l'impression que c'est à l'autre qu'on demande. On demande à l'autre d'écouter, mais bon, comme on est souvent quand même dans des logiques monologiques et dans des monologues. Et pas forcément disposé à écouter l'autre, même dans les dialogues. Ben, l'écoute, c'est peut-être aussi pour soi, pour se donner... Oui. Voilà, mais là, on entre dans une psychologie, une psychanalyse de comptoir. Mais voilà, c'était pour répondre un petit peu à la question. Écoute, et ça me fait penser aussi, il y a quelque chose de très grave dans ce terme-là. J'étais tombé une fois sur une émission France Culture avec un enregistrement de Marcuse. Herbert Marcuse, donc le théoricien, on va dire, post-école de Francfort, américain, et une intervention qu'il avait fait devant des États-Unis, devant des élèves aux États-Unis, et c'était en mai 68. Et c'était très étrange parce qu'en fait, mai 68 vient en grande partie des théories d'Herbert Marcuse, en tout cas, c'est alimenté de toutes les théories d'Herbert Marcuse. Et lorsqu'il est arrivé dans l'amphi, alors que une grande partie du monde s'embrasait sous les révoltes étudiantes, liées notamment à ses écrits, il y a juste une petite voix toute fluette qui essaye de traverser le brouhaha de l'amphi, c'est « Est-ce que vous m'entendez ?» Je vous le demande, s'il vous plaît, est-ce que vous m'écoutez ?
Oui.
Et j'ai trouvé ça au moment de mai 68, Marcuse disant ça, ça m'a toujours véritablement troublé et impressionné, cette petite voix fluette qui demandait simplement est-ce qu'on l'entendait ?
Oui. Oui, c'est une question, c'est pas une injonction.
Et c'était pas, non, c'était pas du tout une injonction, c'était est-ce que vous m'entendez ?
Oui.
Et chercher simplement à faire le silence dans l'amphi, ou demander gentiment le silence dans l'amphi, mais. Au milieu de 68, alors qu'il y avait un retentissement énorme de ses écrits, j'ai trouvé ça très doux et magnifique. Ouais. Et le écoute, je ne sais pas pourquoi, mais ça me rappelle toujours un petit peu ça aussi.
Une image, donc, ça évoque
une image. Voilà.
Bon, mais pour la radio, ce mot écoute est parfait. On passe à la lecture. Philippe Malone, tu as choisi donc de publier un extrait inédit du travail en cours. Et est-ce que tu peux le présenter et dire en quoi ça consiste ?
Alors, ça va être un extrait d'un texte qui s'appelle Sweetie, qui est un long monologue un petit peu paranoïaque qui peut-être soit vu comme le monologue d'une mère s'adressant à ses enfants, soit comme le dernier discours du cinquième mandat de Marine Le Pen.
Cinquième, toi, carrément.
Voilà.
Le cumul est autorisé, donc enfin, le cumul dans le temps est autorisé.
J'ai peur qu'il le soit à chaque fois, c'est pour 1000 ans, ce genre de choses.
D'accord. Ouais, on va écouter, on t'écoute.
Extrait de Sweetie. N'est-ce pas un bourdonnement, sweetie? Un léger bourdonnement qui depuis quelques jours enfle et se répand? Une vibration tenace? Un grondement sourd qui par ondes incessantes emplit tout l'espace? Une insistante vibrante aux arêtes coupantes? Ça dérègle les jours, sweetie, ça détraque les nuits, défait l'ordre des heures, sape la mécanique du temps, mue chaque seconde en siècle et chaque siècle en tumulte, sweetie. Ce bourdonnement l'entends-tu? Tapis dans les murs, transporté par les murs, amplifié par nos murs, des murs dérisoires, des murs comme des pots, l'entends-tu, sweetie? On dirait que les murs vibrent, qu'ils palpitent avec le bourdonnement. Ils ondulent sous cap, sweetie. Un fourmillement sous l'écorce. Le vois-tu? Le sens-tu? Il agace l'humeur, irrite jusqu'aux yeux, comme si harceler l'oreille ne suffisait pas, sweetie. Ça bourdonne aussi pour l'œil. Ne vois-tu donc rien? Ne l'entends-tu pas s'insinuer par vagues retorses dans l'oreille? Ramper jusqu'aux yeux, obscurcir la cornée, l'entends-tu gronder comme un essaim vibrant? Il cogne et tente par tous les moyens de s'infiltrer. Suis-je donc seul à sentir s'infiltrer cet essaim? Ce bourdonnement-là, galopant sous nos murs. Qui l'eût cru, sweetie? Un essaim au galop. Suis-je donc seul à le sentir m'éperonner? Jusque dans le crâne, sweetie, m'envahir par les larmes jusqu'au tréfonds des trous. Cette irritation, sweetie. La tenace intrusion galopante de secondes devenues siècles, suis-je donc seul ou l'entends-tu aussi? Si cela ne t'ennuie pas de répondre, bien sûr. Ne t'emplit-il pas les oreilles et les yeux comme il gorge les miens, sweetie, de fatigue et d'inflammation, ou bien ton indifférence réfractaire au monde t'aveugle et t'assourdit, sweetie, ma sweetie, l'entends-tu? Ohé, réponds, sweetie, m'entends-tu? Non, bien sûr. Tu n'entends rien, bien sûr, tu ne souhaites pas entendre, tu préfères être sourde, opte pour le bonheur d'être sourde, sweetie, un bonheur sans bourdonnement, une torpeur sans intrusion, toi, les autres, tous les autres avaient décidé de ne rien entendre, n'est-ce pas? C'est à moi qu'incombe cette tâche ingrate, à moi, car personne n'ose endosser cette responsabilité, ce serait courir trop de risques, sentir glisser les bourdonnements des murs jusque sous l'armure de la peau, ce serait accepter qu'ils s'immiscent. Accepter qu'il pénètre, je connais l'argument, plutôt sourde que pénétrée. Les risques, tu préfères me les laisser, n'est-ce pas, sweetie? Tu préfères te cacher derrière le rempart rassurant de mon tympan, à l'abri de ta surdité, à l'abri de cette opportune surdité qui mérite tant, alors qu'enfle autour l'immonde désagrément, alors que suintent les seins bourdonnants, alors que le regard éblouit dans leur trouble confusion n'en contienne plus le flot, alors que la vue n'y entend plus rien, sweetie? Que chaque seconde pèse un siècle? Je te regarde et je me demande combien de siècles tu parviendras à rester sourde. Combien de siècles tu imagines que la paroi de nos murs, que l'épaisseur de nos peaux parviendront à contenir les vrombissements? Combien de temps les digues de ta surdité te protégeront, sweetie? A-t-on jamais vu pareille défense tenir longtemps? A-t-on déjà dressé plus piètre mirador? Les murs ne séparent plus, sweetie. Voilà notre drame. Les bourdonnements les submergent, ils parviennent à nous piquer car ils piquent, tu le sens quand même. Ils s'immiscent par l'oreille, brouillent le regard, rampent sous la peau qu'ils chahutent et cloquent, provoquant des piqûres. Tu n'aimes pas quand je parle de piqûres. Oh, l'indélicatesse des piqûres, sweetie, des piqûres si vives. N'avons-nous pas conseillé « cela suffit » Haussez le ton « cela suffit ». Froncer le sourcil, pris la grosse voix, pointer l'index derrière nos murs vibrants, des murs n'ont pas toujours vibré, sweetie, pris nos dispositions pour qu'ils n'infiltrent pas, se faufilent dans nos têtes, oh ces bourdonnements, oh cet essaim, qui sont-ils pour piquer ainsi, pour assaillir nos murs jusque sous ma peau? Tu m'entends, sweetie? Sweetie, cette surdité quand même, on dirait des moustiques, non pas des moustiques, des guêpes, non pas des guêpes, des bourdons, pas des bourdons, des frelons bourdonnants. On dit que les frelons arrachent la tête des abeilles, sweetie. Ils décapitent gracieusement, juste par plaisir. Ils ne gardent pas les têtes, aucun trophée pour la galerie, rien pour égayer les murs lorsqu'ils rentrent de la guerre. Ça ne plastronne pas, les frelons. Ça tranche par plaisir. Ils coupent comme ils bourdonnent avec cette routine assommante d'essaim méthodique, car le seul but qui les anime, sweetie, c'est la destruction des reines. C'est uniquement pour cette raison qu'ils raccourcissent les abeilles, puis qu'ils enflent de plus belle et haussent leur mugissement et s'approchent de la reine et « Oh, sweetie !» Ce ne peuvent être des frelons, n'est-ce pas? Les frelons sont vicieux. Les frelons sont dangereux, moins que les enfants, bien sûr, mais dangereux quand même. Des enfants en moins gros, moins sournois peut-être, ils ne s'infiltrent pas. Par-dessous, ils vrombissent dans les murs, les enfants rampent. C'est le propre des enfants, ils se répandent sur le parquet, ils se faufilent par les lattes, bien trop couards pour vrombir du sommet, bien trop lâches pour prendre de la hauteur. Ce ne sont pas des enfants, n'est-ce pas, sweetie? Tu ne réponds pas. Évidemment, il faudra l'admettre, tu ne répondras pas. Je poserai les questions et les réponses, et comme d'habitude, tu feras la sourde, sweetie. Et comme l'injure de la surdité ne suffira pas, tu y ajouteras l'offense du mutisme. Je te connais tellement, sweetie. Comme si je t'avais fait. D'ailleurs, d'où viendraient ces enfants? Il n'y a que nos enfants ici, ce ne sont pas nos enfants. Nos enfants ne s'aiment pas, nos enfants ne piquent pas. Ils ne piquent plus depuis longtemps, n'est-ce pas, sweetie? Nos enfants ont cessé de piquer depuis que nous leur avons conseillé. Nous leur avions gentiment conseillé, n'est-ce pas, sweetie? Avons pointé dans l'index les petits agglutinements. Attention! Avant qu'ils ne ballonnent en essaim, tu sais combien nous devons être attentifs aux petits agglutinements. C'est là qu'éclosent les chamailleries, là qu'enflent bien des irritations. Dans tout agglutinement, l'indisposition du ballonnement, sweetie, là que s'affûte l'aiguillon que tu redoutes tant. Or, nous ne voulons pas qu'il pique, n'est-ce pas? Il faut rentrer l'aiguillon. Les enfants peuvent tellement se blesser. Ses yeux, sweetie, quand je parle d'aiguillon, nous avons pris la grosse voix. Allons, allons, on ne s'agglutine pas. Avons prodigué nos conseils pour que les seins déballonnent. Quand rang serré, nos enfants s'alignent et se calment et sourient pour qu'une fois déballonnés, cesse la confusion des vols. Se rétracte chaque aiguillon. Ce ne sont pas eux. Je ne vois pas comment ce pourrait être eux, si adorables, si attentifs au moindre désagrément de leur mère, si promptes à lui porter secours, mes enfants, mes tendres enfants, à l'aiguillon bien caloté. Le fruit de mon laborieux travail, sweetie. Tu ne réponds pas, tu ne réponds jamais, sweetie. Bien sûr, ce sont eux. Eux. Encore eux. Toujours eux. Mes enfants, mes propres enfants qui bourdonnent. Tu peux me le dire, sweetie, si tu m'entends, bien sûr, si ton oreille, comme je le pense, filtre avec discernement ce qu'elle doit et ne doit pas entendre. Si, comme je le pense, tu n'es pas complètement sourde, sweetie. Si tu sais encore retrancher ma voix des bourdonnements infantiles, ma propre voix, sweetie, affectée d'être sourde au bourdonnement n'empêche pas d'entendre un peu, l'un n'annule pas l'autre, on peut ne mentir que partiellement, il n'y a pas de règle intangible, savoir contrarier sa surdité peut même constituer un atout appréciable, sweetie. Surtout la contrarier en vertu de l'intérêt qui t'obligerait à saisir l'agacement dans les modulations de ma voix, car tu comprendrais alors que cet agacement, sweetie, ce haussement si caractéristique de ton, cette stridence si étrangère au bourdonnement, signifie que ma patience a des limites, sweetie. Les limites exactes de ta surdité sélective. Et peut-être, oui, peut-être alors que ma requête trouvera un peu de place au fond de ton cerveau apathique pour daigner y répondre. N'est-ce pas, sweetie? Est-ce mes enfants qui bruissent et se dissipent? Et pique et lamine jusqu'au ressort usé de notre patience, ma patience océanique de mère, sweetie, ce bourdonnement vulgaire et entêtant. Ce sont eux, mes chéris, sweetie. Ils recommencent encore. Ils se mettent à vibrer, reforment leur essaim et bourdonnent sous nos murs, par le sol, le long des parois qu'ils ondulent pour pénétrer. Ils exhibent leur aiguillon, sweetie. Ils réclament avec leurs cris, oh l'abjection des cris. Oh, l'infecte gratification de l'enfantement, ce sont mes enfants qui réclament et tu ne fais rien. Tu ne fais rien, continue de faire la sourde malgré la ridicule que cela te donne, la fausse sourde qui se retranche en plus dans le mutisme et l'apathie. Nous voilà servis, si bruyante que tes silences couvrent n'importe quel bourdonnement, n'importe quelle stridence infantile. Tu es si bruyante lorsque tu es muette, sweetie. Oh la hantise de ces cris, oh l'indélicatesse de leur jeu, le tracas de l'essaim. Ils s'approchent de nous en vagues stridentes, font vibrer l'air, sweetie, piaillent en flots tonnants, des griffures dans la compassion maternelle, nos chers petits qui crient avec toute l'emphase du rôle qu'ils s'imaginent en criant, avec leur vilain geste d'enfant, avec leur vilain jeu d'enfant, avec leur vilaine piqûre d'enfant. Ils haussent la crête de leur voix, ce drape de posture adulte, sweetie, cette si vilaine posture. Oh, ces jeux, ne leur avait-on pas conseillé de ne pas jouer? Au moins de faire moins de bruit, du moins d'aller courir plus loin, loin de nos murs, au fond du jardin, à l'abri des oreilles, exercer en silence leurs pratiques honteuses, rien qu'entre eux, n'est-ce pas, sans nous obliger à... Est-ce ainsi que nous les avons éduqués, sweetie? N'avions-nous pas circonscrit le jeu à des prescriptions strictes et maternelles? N'avions-nous pas prodigué les conseils sur l'amusement, sweetie, concernant la durée relative de toute activité? chaque temps illustré de belles courbes, avec de jolis dessins d'enfants, un calendrier soigné avec des tâches colorées, faciles à retenir. Oui, un temps pour tous les enfants, un temps pour apprendre et un temps pour écouter, un temps pour travailler et un temps pour se reposer, un temps pour le sérieux et un temps bref pour la détente. Mais tant de rire, ça non, sweetie. Car voilà, il rit, n'est-ce pas ? Il rit en remuant et criant, et ce rire liant l'un à l'autre, l'enfance au jeu, le jeu au rire et le rire au cri, ce cri d'enfant riant qui rend ce bourdonnement si cruel aux oreilles maternelles appelle sinon notre condamnation, du moins notre réprobation, sweetie. Oui, réprobation, le mot est lâché, non pas condamnation, je sais où tu veux en venir, je te connais mieux que toi-même, les enfants, c'est fatal, doivent parfois rire. C'est inepte, mais c'est comme ça, il paraît que c'est utile, que cela fait grandir, nombre d'ouvrages en témoignent, nous le concédons. Nous ne condamnons pas les ouvrages, sweetie, ils décrivent doctement l'évolution des enfants, cette façon si particulière qu'a le rire de les faire grandir, comme si l'unique but des enfants était de rire pour grandir, sweetie, comme s'il n'existait d'autre alternative à l'enfance que le rire pour grandir. Mais est-ce cela que nous désirons ? Est-ce voir grandir nos enfants ? Est-ce les voir nous échapper en riant ? Est-ce notre souhait, ce bourdonnement incessant, cette nuée de rire hérissée de cris, sweetie ? Toutes les mères ne désirent que retarder ce moment. Toutes les mères s'accrochent à l'aube de leur progéniture, comme les hameçons dans une gueule d'enfant riant, sweetie. Toutes les mères se méfient des rires, c'est pourquoi nous devons être vigilantes avec les rires et les ouvrages. Oui, vigilantes, sans condamner ni l'un ni l'autre. Je parle de réprobation, sweetie. Vigilantes. Pour ne pas que les rires se transforment en piqûres d'adultes, ils doivent rire un peu. Nous n'y pouvons rien, c'est écrit dans les ouvrages. Rire au moins par respect des ouvrages, c'est acquis. Mais rire sous couvert, sans piaillement, sans bourdonnement ni piqûre, dans les limites du respect et de la bienséance. Bienséance et respect, sweetie, les deux mamelles de toute bonne éducation, car oui, nous pouvons tolérer la parcimonie des rires infantiles quand ceux-ci s'en tiennent à la stricte observation de l'énoncé des ouvrages, du moins dans certains ouvrages, quand ceux-ci ne font pas l'éloge du rire pour le rire, mais assignent ce germe au piteux déséquilibre hormonal dont le gloussement n'est que l'ingrat symptôme avec lequel l'amour d'une mère doit composer, sweetie, Dieu que la phrase est longue lorsqu'elle s'occupe de science. Le rire pour le rire, quelle arriération quand même. A-t-on jamais ri pour le plaisir, sweetie ? Le rire appelle-t-il une quelconque gratuité ? Nous reviendrons sur la gratuité. Le rire n'est qu'un vilain rictus estropiant le visage de nos chers enfants, l'enlaidissement prématuré et bruyant du poupon, la trappe ouverte sur le beuglement et la carie, sweetie, le témoin obsédant de l'incommodité douloureuse d'une croissance que nous devons coûte que coûte contenir pour ne pas qu'elle ballonne en cris agglomérés. Le gazouillis, une promesse. Le gazouillis, oui. Le piaillement, non. L'offrande, pas la réclamation. Le don, pas le vol. Nous aimions tant leur gazouillis, ce gazouillis à peine audible d'enfant discret avec ses grands yeux muets, ne soulevant rien d'autre en nous que la sympathie, sweetie. La sympathie est peut-être l'amour. Oui, l'amour, sweetie. Et non l'agacement. Ces gazouillis nous divertissaient, t'en souviens-tu ? Quel ravissement alors, ces petits râles anodins d'enfants qui n'ont pas encore lu d'ouvrage, ces cris légers qui ne pensaient pas à rire. Ils respectaient la bienséance. Ils n'enflaient pas en piaillement, puis bourdonnement lors de vilains agglutinements, sweetie.
Voilà, c'était donc un extrait d'un texte en cours d'écriture, sweetie, par Philippe Malone. Merci Philippe. On va aller un peu plus vite pour les dernières questions auxquelles tu n'as pas répondu, mais tu vas pouvoir le faire même brièvement, mais j'avais envie aussi de t'entendre peut-être commenter un coup de cœur artistique. Qui soit d'actualité ou pas. Voilà, quelque chose qui te traverse l'esprit, peut-être.
Là, comme ça...
Tu avais dit que tu étais prêt.
Oui, je suis prêt, bien sûr. J'ai tout un texte sur Bill Viola, voilà. parce que j'en reparlais récemment, voilà. Oui. Bill Viola, l'exposition de Bill Viola m'avait énormément impressionné. Voilà, son travail vidéo sur...
C'était où ?
Sur le temps. Là, c'était au Grand Palais à Paris, il y a 2-3 ans.
D'accord.
C'est une grande rétrospective donc, de ce vidéaste qui imposait, ce qui est fabuleux, c'est que voilà, il travaille sur le temps, des images très fortes et sur le temps, et il nous impose une lecture de ses œuvres. Et ça, c'est quand même très précieux aujourd'hui aussi, voilà, d'avoir affaire à des artistes qui eux-mêmes imposent le temps de lecture de leurs propres œuvres et mettent en place un dispositif qui, en plus, ne nous force pas, nous amène tout doucement à le faire.
Oui.
Et ça, c'est absolument fabuleux.
Ouais. Bah, je vois que ça t'a marqué. Si ça date d'il y a 2-3 ans, c'est que tu...
Non, c'était une grande exposition.
Ouais, une grande expo. Ensuite, un holoé. Alors, un holoé, qu'est-ce que c'est? Un holoé, c'est un terme qui est inventé par Anne Savelli, qui est une auteure qui travaille aussi bien sur le net qu'en format papier, qui est aussi... pour son premier livre qui a été publié par un éditeur marseillais, que les éditions Le Mot et le Reste. Et elle a inventé ce terme qui veut dire un endroit où lire ou écrire. Où lire ou écrire. Donc, est-ce qu'il y a un holoé, un endroit pour toi où lire ou écrire qui soit favorable ou habituel ou surprenant, mais que tu auras envie de citer?
Lire, pas forcément. Écrire, j'écris dos au mur.
Dos au mur.
Voilà.
Au sens...
à tous les sens du terme. Je ne peux pas écrire si j'ai de l'espace derrière moi.
D'accord.
Donc il y a un holoé générique qui est une présence d'un mur. Et si sur le mur il peut y avoir un radiateur, c'est encore mieux.
Ah. C'est la posture du chat.
C'est la posture du chat, voilà.
D'accord. Bon, bah parfait, on voit très bien. Un agacement.
Oh, il y en a plein.
À part écoute. Qui n'est pas forcément un agacement d'ailleurs, d'après ce que tu as expliqué. Il y en a plein. Ouais, un seul.
Je ne vois pas là.
Même avec l'actualité, là, il n'y a rien qui t'agace.
Oui.
Bah, oh,
y a à la fois trop de choses et finalement. On finit par être soi-même agacé par l'agacement, je dirais. Donc effectivement, il y a beaucoup d'agacements sur lesquels j'essaye de passer pour attendre un petit peu, pour attendre
oui.
De voir. Oui, il y a des ce qui m'agace, c'est la récurrence. C'est-à-dire qu'on a l'impression que on sait que les mêmes causes donnent les mêmes effets et que ça ne change rien.
Des gens qui sortent pas de leur schéma de pensée, en quelque sorte.
Qui sortent pas, et puis parce que l'histoire aussi a montré des choses et que toujours est en train de se reproduire à l'identique. Ouais. Et voilà, c'est... Bon, là, c'est plus qu'agaçant, bien sûr, mais c'est-à-dire que finalement, ce qui arrive n'est rien que de ce qui semble être tout à fait normal. Ouais. Voilà. Et la normalité est agaçante, surtout quand elle se produit de cette manière-là.
Ouais. Mais tu vois, il y a plein de choses... un a priori sur Marseille.
C'est le bordel.
Bon, ça suffit, c'est bien.
C'est un a priori.
C'est un a priori. Une journée type de l'écrivain au travail. Est-ce qu'il y a une journée type, d'ailleurs, pour toi?
Il devrait...
En dehors d'être dos au mur, pelotonné comme un chat.
Oui. À partir du moment où... J'ai moins de régularité dans l'écriture et ce temps de régularité-là, j'essaye de l'avoir lors des résidences. Donc, du coup, il y a une journée type qui est un réveil à heure fixe. Mmh. Et ensuite, une angoisse et une panique généralisée sur la journée.
D'accord.
Voilà.
Et l'organisation ne suffit pas à calmer cette angoisse?
L'organisation, c'est se forcer à écrire, du coup, et à trouver les mécaniques qui vont enclencher l'écriture. S'y remettre, éviter tout blocage, éviter l'endormissement, bien que là, ce ne soit pas trop produit, parce qu'il y a le phénomène de narcolepsie. Je tiens à parler publiquement aujourd'hui, parce que c'est propre à beaucoup d'écrivains, c'est-à-dire il suffit de se mettre devant un ordinateur pour avoir envie de dormir. Donc, c'est une résistance... au travail, hein,
ouais.
Simplement. Mais ça existe chez beaucoup de personnes. Ouais. Moi, j'étais victime de narcolepsie au travail pendant très longtemps. Il y a toujours une demi-heure contre laquelle il faut se battre pour ne pas s'endormir. Et ensuite, ça va. Donc, lutter contre ça, même si là, il n'y a pas eu trop ce phénomène-là. Et ensuite, voilà, se mettre à travailler, s'astreindre à ne pas bouger, s'astreindre à manger.
Oui. Oui, parce qu'on
aussi,
peut oublier,
parce qu'on perd beaucoup d'énergie. Ouais. J'ai lu quelque chose qui m'a beaucoup rassuré, parce qu'on voilà, on croit que nous ne sommes pas des grands sportifs. Nous sommes des grands sportifs. Et on dépense, paraît-il, beaucoup d'énergie lorsqu'on écrit. ou même lorsqu'on reste assis à essayer de travailler. Donc il y a vraiment un régime de olympien, je dirais, pour se tenir en forme, à base de sucre lent, de tout produit, toute la pharmacopée du cycliste, bien sûr, enfin tout ce qui va avec pour pouvoir travailler, quoi.
Ah ben, je propose une nouvelle émission qui serait La bonne santé de l'écrivain, les conseils de Philippe Malone. comment réussir son régime spécifique. Voilà. Ah, j'ai jamais entendu ça, mais j'entends. Enfin, je l'ai jamais entendu dire par quelqu'un, mais je comprends très bien ce que tu veux dire. Oui. Cette nécessité d'avoir finalement de bien se nourrir, de tenir compte de son corps, alors qu'on pourrait l'oublier, justement.
Oui, mais c'est pour ça, d'ailleurs, que beaucoup de gens se marchent aussi, se baladent. Il y a la sortie, effectivement. En tout cas, moi, c'est au bout de quelques jours, parce que j'ai le dos qui finit par être complètement bloqué aussi par la position assise. Donc, à ce moment-là, sortir, simplement.
D'accord.
Mais il y a vraiment une... Je pense qu'il y a... Enfin, en tout cas, pour moi, il y a nécessité d'une assaise. Pendant très longtemps, j'écrivais véritablement à heure fixe, tout le temps, de la même manière, pour m'astreindre à la fois un régime et des consignes pour pouvoir avancer. Et là, c'est ce que j'essaye de retrouver en résidence.
Ok. Du coup, ça répond peut-être à la dernière question qui est, est-ce qu'il y a une bonne résolution pour cette résidence à la Marelle ?
Oui, il y en a beaucoup. C'est ça qui donne la pression, c'est ça qui procure aussi les angoisses. Mais ça serait arriver à terminer Sweetie. Et bien sûr, au moins l'avoir suffisamment avancé pour que ça puisse se terminer en douceur au premier semestre. Donc ça, c'est la bonne résolution.
Il y a une échéance de publication, une demande d'éditeur, une mise en scène prévue, une lecture. Il y a quelque chose qui t'oblige à finir à une date ?
Pour Sweetie, non. Il y a des attentes, j'imagine, de mes éditeurs. Mais il n'y a pas d'échéance.
D'accord.
Si ce n'est moi qui me la fixe, et puis si ce n'est aussi on devient assez vite invisible, donc pour réactiver la machine à visibilité,
oui.
Il faut quand même...
Il faut être présent.
Il faut une présence ou faire semblant d'avoir une actualité. Donc je me suis employé à faire semblant pendant 2 ans, mais là ça commence à se voir. Donc il faut vraiment qu'il y ait une production.
Je pense depuis 2014, derrière. Franchement,
voilà.
Ça commence à faire. Philippe, avant d'entendre un deuxième extrait plus court d'un de tes textes, Crash, je voudrais évoquer à la fois Emmanuel Darley et Claudine Galéa, pour dire que tu es le lien entre ces deux auteurs, qui se connaissaient probablement d'ailleurs, hein, je pense, Emmanuel et Claudine, je n'ai pas posé la question, mais dire que tu succèdes en quelque sorte à Emmanuel Darley, qu'on avait accueilli en résidence à la Marelle, parce qu'il t'avait invité. Je voudrais que tu... Voilà, je t'ai proposé d'être en quelque sorte le début d'un fil rouge. Enfin, c'est Emmanuel plus exactement le début, mais tu es directement dans le programme, un auteur proposé par Emmanuel Darley, programmé en quelque sorte presque par Emmanuel Darley.
Oui, alors j'ai cette chance-là effectivement d'être un relais entre Emmanuel et Claudine. Donc c'est grâce à Emmanuel que je suis là, qui était un grand écrivain que j'admirais beaucoup et qui m'avait invité en 2014, donc pour le rejoindre ici quelques jours. Je n'avais pas compris ce qu'était un auteur fil rouge, j'ignorais que
ça n'existait pas encore.
Voilà,
en fait,
c'est pour ça. Donc on s'était rencontrés à ce moment-là et nous avions marché, là cette fois-ci, pendant 4-5 jours, marché et écrit. Et voilà, et donc aujourd'hui je suis là grâce à Emmanuel et toi bien sûr, et puis comme je connais bien Claudine, que ça fait des années que l'on voulait prendre du temps pour se voir et même écrire ensemble, du coup oui. J'ai proposé à Claudine Galéa de venir. Il va venir la semaine prochaine. Nous allons passer 4 jours pour mettre en place un projet d'écriture commun.
Voilà.
Qui débouchera, en tout cas, elle, sur une résidence et nous, sur un travail d'écriture.
L'écriture à deux.
À deux.
Voilà, parce que l'écrivain n'est pas si solitaire que ça.
Pas du tout, pas du tout. Il a la possibilité. Et c'est ça l'avantage, justement, de ce lieu qu'est le théâtre, c'est qu'il fait partie d'une chaîne de production qui est absolument fascinante et passionnante, par exemple.
Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces réponses et toutes ces ouvertures, Philippe. Je te propose de t'entendre lire ce dernier extrait d'un texte que, voilà, qui est celui par lequel je t'ai découvert, moi, à la fois parce que Emmanuel Darley m'avait dit de lire ça, et aussi parce que je l'ai vu en lecture à Grenoble, lu par une troupe qui s'appelle le Deuxième Bureau. Je ne sais pas si c'est une troupe, un collectif avec un acteur extraordinaire qui lisait tout de ce texte, y compris des choses totalement illisibles. même que même toi, tu m'avais dit à ce moment-là, renonce à lire puisque la fin du texte supprime carrément les voyelles dans les mots pour aller plus vite et pour accélérer la chute en quelque sorte. Donc on t'écoute.
Extrait de Crash. Que tu craches ou heurtes, le mur ne cédera pas. Que tu craches ou heurtes, la brique ne cassera pas. La fissure, pas plus que le sang frais, n'émeuve. Que tu craches, heurtes ou saignes, le poing lors de l'impact reste sourd, la certitude fossile, l'étincelle froide, son fracas, lointain. Que tu craches, heurtes ou saignes, que tu comprimes le poing à le faire gicler, que l'arceau de tes doigts cède sous la pression, que la peau sous l'impact se déchire et abrase, les lambris de ta chair au plus une bravade. Que tu craches, heurtes ou saignes, que tu éructes et siffles, et que ton poing, pourtant muscle, pourtant roc, pourtant sang, se fiche de douleur, qu'il invective l'os, s'aveugle à ses fractures, tes phalanges en ordre disjoint à jamais une. Guenille d'armée. Que tu craches, hurles et cognes, que t'assourdisses et cries, que tu propulses ton crâne répulsé incassable, réputé imprenable dans ce qui relève d'angle et d'arête et de pointe, dans ce qu'il y a d'inviolable et d'achevé, que ton front pourtant chaîne éclate en torchis de veine, qu'il martèle comme ton poing, pourtant rompu au cou, pourtant bardé d'ivresse, jamais tu n'ébranleras la foi. Que tu craches, hurles et cognes, que t'assourdisses et feintes, que tu enrages et siffles, que lèvres, langue et dents bouillonnent dans la bataille, tour à tour appel, morsure, ordre, continuement houle et rage, bientôt déchirement cri, que tu gueules par-delà l'ivresse des consonnes déchiquetées, en deçà la mitraille des voyelles, que l'onde ainsi vomit, car il s'agira d'onde, onde masse, marteau mufle, revolver onde, slogan et onde cou, portée aux dents de briques, que l'onde de choc se renfle en obus sifflant avant qu'il ne déflagre, jamais n'ébranlera leur foi. Que tu craches, hurles et cognes, que tu ébranles et fendes, que front contre brique, que rage contre X, que seul en vain, contre chaque et tous, contre grêle et vent, contre gré de force, qu'à chaque plaie ouverte, qu'à chaque morsure, qu'à chaque œil, qu'à chaque dent, qu'à chaque larme, lestée de haine, s'effondre une partie de toi, s'anéantisse la honte qui vit naître ta rage, que malgré les peintures de guerre sur ton visage, slogan scarifié, décompte macabre au rasoir de combats à tenir, ni la marque sur ton front, ni les plaies sur tes joues, ni l'éclair dans tes yeux, ni l'orage par ta bouche armée de crocs taillés n'allégeront leur triomphe.
C'était la première chose que je peux vous dire de et par Philippe Malone. Merci Philippe.
Merci Pascal.
Prochaine invitée, Charline Colette, auteure illustratrice jeunesse, invitée par La Marelle et par Photokino au mois de décembre. La première chose que je peux vous dire est une revue, radio et papier, dont le titre est inspiré par la première phrase de La vie devant soi, le roman de Romain Gary et Émile Ajar. Production, Radio Grenouille et La Marelle. Présentation, Pascal Jourdana. Voix, Manon et Violette. Suivi de production, Fanny Pomared, La Marelle, et Pauline Gervais, Radio Grenouille. À la technique, Sébastien Gély.
Otros accesos a lo no cotidiano. Simplemente para La Marelle est une structure hébergée à la Friche Belle de Mai qui encourage l'émergence de nouveaux talents littéraires et facilite les échanges entre les écrivains et le public. C'est à la fois un lieu de création, d'accompagnement à la production et de diffusion.